Lundi 15 août 2022, il vient d'être 17h. Tout de suite, le journal en français du studio Kalangou dans une présentation de Rafika Taher. À la une, plus de deux semaines après le retour des pèlerins nigériens au Hajj 2022, beaucoup d'entre eux attendent encore leur bagage. Le président de l'Association des agences de pèlerinage du Niger explique. Environ 500 jeunes venus de 25 pays d'Afrique participent au camp des jeunes scouts ouvert vendredi à Tillabéri. Les détails dans un instant avec le commissaire général des scouts du Niger. Dans la partie magazine, nous irons à la découverte du droit international humanitaire. Les pèlerins nigériens au Hajj 2022 ont regagné le pays, cela fait plus de deux semaines. Mais à l'heure actuelle, ils sont nombreux ceux qui n'ont pas encore récupéré leur bagage. Pour le président de l'Association des agences de pèlerinage du Niger, c'est au Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho de veiller à l'acheminement des bagages à Niamey. El Hadji Ahmed Moumouni explique au micro de Maman Ada.
Normalement, les bagages de nos pèlerins doivent être acheminés à Niamey. Mais nous avons vu des photos des bagages qui sont à Kano, qui sont bloqués là-bas à Jeddah. Donc, nous ne connaissons pas les raisons. Puisque si les transporteurs n'arrivent pas à acheminer les bagages à leur destination, donc il est le seul responsable. Nous avons signé un contrat avec les transporteurs, contresigné par le Koho. Nous avons versé notre argent au Koho. Normalement, il y a 10% de somme que le Koho doit garder au cas où les transporteurs n'arrivent pas à honorer ses engagements vis-à-vis de nos bagages, d'utiliser vraiment cette somme-là pour acheminer nos bagages à Niamey. Pour nous, c'est le Koho qui est le seul responsable.
Direction Tillabéri, où se tient le camp chantier international de solidarité des scouts. Lancé vendredi, il prendra fin le 18 août. Environ 500 jeunes venus de 25 pays d'Afrique y participent. Hier, une conférence débat sur la paix et la sécurité au Sahel a été animée et les jeunes de la zone des trois frontières estiment que le dialogue est la solution pour le retour de la paix. Écoutons le commissaire général des scouts, Aliou Oumarou, au micro de notre envoyé spécial, Habibou Garba.
La zone des trois frontières qui réunit le Mali, le Burkina et le Niger est la zone la plus instable. Donc c'est pourquoi amener les jeunes de ces trois pays à se concerter, à partager leurs bonnes pratiques, ne peuvent qu'aider nos États dans la lutte contre l'insécurité. Parce que dans les deux cas, ceux qui luttent contre les terroristes et les terroristes eux-mêmes sont tous des jeunes. Donc comment amener la jeunesse de ces trois pays à se parler, à proposer aux autorités des solutions idoines? Parce que nous l'avons dit aussi ce matin, les statistiques sont là et elles parlent d'elles-mêmes. La solution militaire n'a jamais été la solution la plus efficace. Si les pays les plus puissants ont échoué dans le Golfe, ce n'est pas en Afrique qu'ils vont réussir. Donc il faut faire taire les armes et donner la chance aux jeunes de se repentir, donner la chance aux jeunes d'être enrôlés dans l'entrepreneuriat, devenir des vrais capitaines d'industrie, donner la chance au dialogue.
Restons en région à Agadez. Le Conseil régional de la jeunesse d'Agadez avec d'autres structures de jeunesse ont rendu public le 13 août une déclaration relative à l'appel d'offres d'emploi d'une compagnie minière canadienne. Il demande prioritairement le recrutement des jeunes de la région. Suivant un extrait de la déclaration lue par Mohamed Ibrahim, rapporteur du Conseil régional de la jeunesse.
Nous avions vu l'appel d'offres d'emploi de la Société Globale Atomique dans lequel nous avions constaté des critères taillés sur mesure. Excluant tous les jeunes diplômés n'ayant pas eu la chance de travailler et qui ne disposent d'aucune expérience de 3 ans voire 10 ans. Nous voulons rappeler au Global Atomique que nous ne sommes plus dans les années 70 et 80 où des individus ont eu comme alibi le manque de diplômes pour ne pas recruter les compétences locales. Nous n'allons pas l'accepter. Il y a des compétences dans la jeunesse nigérienne et nous demandons que cette jeunesse soit mise dans ses droits. Nous demandons par conséquent le départ pur et simple d'idées et du DRH et un quota de minimum 50%. Nous sollicitons aussi la prise en compte des entreprises locales dans la sous-traitance, de la réalisation des infrastructures routières. Nous nous dressons contre cette mascarade en usant de toutes les voies légales.
C'était les propos recueillis par Anissé Karim. Toujours en région, cette fois-ci à Diffa, où les habitants des quartiers riverains de la Komadougou sont inquiets par rapport à la montée des eaux de la rivière. Ils lancent un appel aux autorités pour prendre des mesures afin d'éviter les inondations quand arrivera la crue. Écoutons quelques avis recueillis par Guidi Abdraman.
Ce que nous pouvons dire, c'est de mettre à notre disposition des matériaux de remblayage le plus rapidement possible pour bloquer l'écoulement des eaux avant qu'il ne soit trop tard. Il ne faut pas laisser jusqu'à ce que les dégâts se produisent pour intervenir. Par contre, si on nous amène les matériaux de remblayage, nous allons nous atteler à bloquer le passage avant que ces eaux ne débordent.
Nous souhaitons une assistance pour qu'on nous arrange cette digue. Dès qu'on annonce l'arrivée prochaine d'une crue, nous sommes très inquiets. Mais une fois que la digue est arrangée, nous n'aurons aucune difficulté avec ce courrier.
Les services de la météorologie ont prévu cette année des fortes précipitations avec probablement des inondations avec le débordement du lit de la Komadougou. Avant que les autorités nous fassent quitter les abords de la rivière, les autorités locales doivent nous aménager un site pour nous abriter.
Les débats sur la bonne gouvernance se poursuivent en région, organisés par la Maison de la Presse à travers un partenariat avec le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD. À l'étape de Tchirozérine à Agadez, un débat public sur la gestion des communes. Ibrahim Harouna, le président de la Maison de la Presse, au micro d'Ahmed Filan pour plus de détails.
Nous organisons des débats sur la bonne gouvernance, la gestion des communes, surtout les communes qui bénéficient des retombées de l'exploitation des ressources minières ou bien pétrolière. Ce débat a commencé il y a plusieurs semaines. Nous avons été dans la région de Tilaviri, dans la région de Tawa, dans la région de Maradi, dans la région de Zender et d'Ifa, mais aujourd'hui dans la région d'Agadez avec la commune de Tchirozéri. L'objectif est de permettre aux autorités locales, avec la question de la décentralisation, de s'exprimer sur leur programme et de donner aussi l'opportunité aux jeunes et aux organisations féminines et de la société civile aussi de s'exprimer sur le programme de ces jeunes-là et comment ce programme est mené et s'il y a des améliorations, des quelque chose qu'il faut apporter pour prendre en compte les intérêts des femmes et des jeunes, qui prennent en compte ces intérêts-là et qu'ensemble ils puissent développer leur commune.
Dans la région de Maradi, une distribution gratuite de vivres a débuté samedi à Mayaï. L'opération va concerner les ménages touchés par le déficit de la campagne agricole 2021. Pour cette première phase, selon Abdou Mantaou, le préfet du département, 80 tonnes seront distribuées à 800 ménages. Il est au micro d'Issouf Cheibou.
Si vous prenez Mayaï, Mayaï Zongo, Mayaï Sofwa et Mayaï Sabongari, ce sont ces quartiers qui vont bénéficier de cette aide. Et au niveau de chacun de ces quartiers, il a été recensé les personnes vulnérables, victimes du déficit alimentaire de la campagne agricole. Ce sont ces personnes qui vont donc bénéficier de ces vivres. Chaque ménage composé de 7 personnes aura 5 kg. Tous ceux qui ont été recensés vont se présenter ici pour retirer leur part. Et que nous soyons déchargés du devoir qui nous incombe. La commune de Mayaï, en entier, va bénéficier de 80 tonnes pour cette première phase, ce qui totalise 4000 sacs pour les 15 villages concernés, y compris Mayaï commune urbaine.
Plus de 400 km de route en terre des départements de Gaya et Djundjou de la région de Dosso seront réhabilités. Les travaux ont été lancés ce week-end par la Caisse de financement de l'entretien routier autonome. Un des responsables du dispositif rappelle l'importance des routes rurales pour les producteurs. Maman Sali Soumaï Kolontier au micro de Fadel Alou.
La CFERA a pour mission essentielle la mobilisation des ressources à travers les postes de péage au niveau des pistes et routes en terre des départements de Gaya et Djundjou et puis les travaux d'entretien courant de ces pistes. Donc c'est ça le lancement des travaux d'entretien routier. Aujourd'hui, on a choisi cet axe-là pour faire le lancement de ces travaux parce qu'au niveau de Gaya, à part l'axe PK10, il y a un accès difficile au village situé sur cet axe. Donc s'il n'y a pas la route, ça peut avoir des répercussions sur la production. On avait ciblé 3 points qui empêchent réellement les gens d'avoir accès au périmètre et à un certain nombre de villages. Donc on a choisi de traiter ces 3 points donc pour pouvoir vraiment faciliter l'accès aux producteurs et à la population, à leur village et à leur champ.
En bref, le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, entame aujourd'hui une visite officielle au Mali, au Tchad et au Gabon. Il est attendu d'abord à Bamako pour un entretien avec le chef de la junte militaire Assimi Goïta, puis à N'Djamena avec le président du conseil militaire de transition sur le processus de transition des deux pays. Pour rappel, cette visite intervient après l'inculpation samedi pour atteinte à la sûreté de l'État des 49 soldats ivoiriens arrêté le mois dernier à l'aéroport de Bamako. Place au magazine de cette édition. Le droit international humanitaire est également appelé droit de la guerre ou droit des conflits armés. Il protège une catégorie de personnes en temps de conflits armés. Tous les pays du monde ont ratifié les conventions que compose le droit international humanitaire, souligne Elem Kairouline, conseiller juridique au comité international de la Croix-Rouge Niger, délégation de Niamey. Il nous fait une brève présentation du DIH au micro d'Ali Tajissir Ahmed.
Les conventions de Genève ont été adoptées en 1949 et sont entrées en vigueur l'année suivante. Et depuis, elles constituent vraiment le pilier du droit international humanitaire. Elles sont ratifiées par tous les pays du monde. Elles contiennent plusieurs centaines de règles qui sont très importantes pour la protection des populations civiles et des personnes qui ne prennent plus part aux hostilités. Elles ont été ensuite accompagnées par les protocoles additionnels de 1977 qui, eux, ajoutent des règles aux quatre conventions et augmente encore la protection des populations civiles. Les deux premières conventions ont trait aux personnes malades, blessées et naufragées. Et puis la troisième convention, elle s'applique aux prisonniers de guerre. Et la quatrième convention, elle protège les populations civiles.
Dans quelle situation les conventions de Genève sont-elles appliquées ?
Il faut dire que les conventions de Genève, dans leur ensemble, s'appliquent en conflits armés internationaux entre États. Mais ils ont un article commun, qui est l'article 3, qui en fait s'applique aux conflits armés non internationaux également. Ensuite, les protocoles additionnels qui ont suivi. Le premier protocole additionnel, il renforce donc la protection des personnes en conflit armé international entre États. Et le deuxième protocole additionnel, il renforce la protection dans les conflits armés non internationaux.
Les droits internationaux humanitaires s'appliquent-ils uniquement dans des conflits entre États?
Le droit international humanitaire, il est, je dirais, indifférent quant à l'enseigne que porte un groupe armé. Ça peut être une enseigne politique, ça peut être un groupe rebelle, ça peut être un groupe avec un agenda religieux. Et pour le droit international humanitaire, ça ne fait pas de différence. Le droit international humanitaire relatif aux conflits armés non internationaux commence à s'appliquer ou quand il y a un groupe suffisamment organisé qui donc possède une force armée qui est capable de nuire à l'ennemi, qui est suffisamment organisée pour coordonner des activités militaires et ainsi de suite. Et puis ce groupe armé, il doit s'engager dans des hostilités d'une intensité qui permet de dire qu'il ne s'agit plus d'une situation de trouble interne, mais que c'est véritablement un conflit armé.
C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à notre programme. Dans un instant, suivra le journal en tamashek, puis le forum en Hausa à 18h15 sur la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école à Tchirezérine. Quel défi! Et c'est dans une présentation de Maman Ada.
Salut Fanta, une très bonne nouvelle pour toi.
Ouais, raconte, je t'écoute.
Plus de soucis pour écouter les émissions de Studio Kalangou.
Sois clair, Rabi, je veux comprendre.
Il suffit juste de composer le 325 sur ton téléphone pour suivre les émissions de Kalangou. Et ce n'est pas tout. Tu peux également écouter des messages sur la santé et la météo.
Quoi? Et partout au Niger?
Et oui, en plus, l'appel sur le 325 est gratuit. Il faut juste disposer d'une puce RTL.
Oh, merci infiniment.
Le 3, 2, 5 pour suivre les programmes de Studio Kalangou au rythme du Niger.